légendaire.
Tu seras vrai, tu seras en vrai.
Alors moi, je serai en vrai, j'en vois pas encore mon hologramme, ça c'est pour la saison prochaine probablement. Mais probablement remplacé par une IA à un moment. Mais non, non, pour l'instant, je suis toujours pour de vrai.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
Tous les jours de 9h à midi sur RMC.
Alain Marchal et Olivier Truchot débattent de l'actu.
Avec des Français de tous bords.
Qui n'ont pas la langue dans leur poche.
C'est les grandes gueules.
Tout à l'heure, 9h midi sur RMC.
Si un jour vous ne captez pas RMC, pas d'inquiétude.
RMC est aussi en direct sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
RMC Football.
Après un match nul à domicile, l'OM peut encore espérer une place en finale de Ligue Europa.
RMC, destination finale. Le retour.
Ultime étape, le match retour ce soir.
18h, échauffement dans Rotten sans flamme.
21h, coup d'envoi en direct de Bergame.
Et débrief dans l'afterfoot.
Suivi de la Libre Antenne. Atalanta Bergame, Olympique de Marseille. Destination finale.
C'est ce soir sur RMC. RMC au 32-16,
45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Salut, c'est Benoît Boutron sur RMC. Est-ce que ça vous plairait d'assister à un moment d'histoire ? Venez au stade Charletti le 8 juin, RMC lance le record du monde de course. 350 km à courir en 24 heures par 144 coureurs. Assistez tout le week-end aux émissions d'RMC, rencontrez les 24 champions stars du running qui nous aident dans cette tentative. Beaucoup de surprises, animations et de nombreux cadeaux à gagner. Et si vous souhaitez être acteur du record du monde RMC, contactez-nous par mail à l'adresse record@rmc.fr.
Entrée gratuite pendant toute la durée de la course. Toutes les infos sont à retrouver dans le podcast RMC Running.
Trop pressé aujourd'hui ?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, de midi à 15h, c'est sur RMC et sur RMC Story, le canal 23 de la TNT. Autour de moi, il y a toujours Alfred Orange, journaliste RMC, Benjamin Amar, enseignant syndicaliste, Yael Mellul, ancienne avocate, fondatrice de Femmes et Libres, et Perico Légas.
RMC, Estelle Midi.
La commémoration du jour, commémoration du 8 mai 1945 et de la capitulation de l'Allemagne nazie, comme chaque année. Ce matin, un peu partout dans notre pays, des cérémonies ont été organisées face au monument aux morts. L'occasion pour le maire d'une commune de l'Aisne, Alfred, de pousser un coup de gueule.
Oui, Nicolas Rébéro, maire de Resson-le-Long dans l'Aisne, constate avec amertume la désaffection de ses administrés pour ces cérémonies commémoratives comme le 8 mai dans cette commune de 800 habitants, le maire a lancé un questionnaire en ligne. Seules 30 personnes ont répondu, déclarant notamment manquer de temps pour ce genre de cérémonie, alors que ce sont pourtant des jours fériés. Aujourd'hui, il y a plus de monde au supermarché que devant les monuments aux morts, se désole le maire. Tous ses administrés se disent pourtant attachés à ces cérémonies, mais plus personne ne prend le temps de venir. Dans un sondage odoxatien paru en 2022, 76% des Français interrogés se disaient pourtant patriote à titre personnel.
Commémoration du 8 mai, manque-t-on de patriotisme dans ce pays, dans notre pays ? Vous nous appelez au 32-16. Yael Mellul, c'est très intéressant là, ce que vient de dire en dernier Alfred. Tu peux me rappeler le sondage ?
76% des Français interrogés se disent patriotes à titre personnel.
Ça c'est très intéressant. Est-ce que le patriotisme doit se vivre à titre personnel ? Est-ce que le patriotisme, au contraire, c'est une...
C'est
pas quelque chose de public parce que justement, ça fait nation.
Alors, par définition, le patriotisme, c'est le sentiment d'appartenance, d'attachement à son pays. Mmh. Et c'est cela qui maintient la cohésion du groupe national. Mmh. Donc, c'est à la fois un sentiment qui est très intime, très personnel, et en même temps, de ce sentiment-là va naître l'appartenance à la nation, à ce qui fait qu'on est une communauté. Aujourd'hui, cette conscience d'appartenir à une nation, cet héritage, cette identité, est malheureusement considérée pour beaucoup de politiques, et je pense évidemment à l'extrême gauche, comme quelque chose de honteux.
L'extrême droite. Non, l'extrême gauche, l'extrême gauche, pardon, voilà. Par rapport à l'extrême droite.
Ouais, voilà. Ouais. Comme quelque chose, c'est considéré comme quelque chose de honteux, comme quelque chose qui serait réservé, voilà, honteusement à des fachos. Alors que, logiquement, on devrait tous être fiers d'être français.
Et est-ce qu'on manque de patriotisme aujourd'hui en France ?
Je pense que les gens ont peut-être plus peur de l'afficher, ce patriotisme, justement, pour ne pas se voir accoler cette étiquette de facho. Mais il faut à tout prix que y ait un sentiment de sécurisation en réalité de ces individus, pour leur dire que on doit être fier de d'aimer la France, que être patriote c'est appartenir en réalité à quelque chose qui est immortel, qui transcende les partis politiques. Donc on doit être fier d'aimer la France, on doit être fier d'arborer des drapeaux français. Quand je vois dans les manifs de LFI plus de drapeaux palestiniens que de drapeaux français, on a un problème.
Perico Légas, est-ce que, encore une fois, je repose la question, commémoration du 8 mai, manque-t-on de patriotisme dans notre pays ? Alors, nous appeler au 32-16 et je te pose la question, Perico.
Alors, on peut témoigner, manifester son patriotisme autrement que d'aller dans les célébrations historiques. Je vous rappelle qu'il y a trois dates qui sont de cette nature, c'est le 11 novembre, le 8 mai 45 et le 14 juillet. Le 14 juillet, c'est un événement national. Le 11 novembre et 45, ça rappelle les deux dernières guerres mondiales. Je rappelle un détail, c'est à chaque fois la France, en 70, en 14 et en 40, qui déclare la guerre. C'est pas les Allemands, oui, c'est un paradoxe. Voilà. Donc, on commémore une fête. Valéry Giscard d'Estaing avait voulu supprimer le 8 mai, il l'avait fait, considérant qu'on était en train de construire l'Europe avec l'Allemagne. On peut pas rappeler deux fois par an que ces gens-là ont été nos ennemis, qu'on a fait des guerres épouvantables face à eux avec un nombre de morts incalculable, et qu'on continue à célébrer, à commémorer ces instants, sauf à considérer que les Allemands, à un moment donné, sont des gens qui peuvent, à un moment donné, poser un problème. Donc c'est là, il y a une dichotomie entre la nature de la fête et l'exercice du patriotisme. Notre patriotisme, ouais, il est
entre... Le 8 mai, on peut l'interpréter d'une manière différente. Pour moi, ça n'a jamais été la victoire contre l'Allemagne, ça a été la victoire contre le nazisme.
Oui, il s'avère que le nazisme, c'était une invention allemande et que la nation allemande, globalement, voilà. Alors, le terme patriotisme, il s'agit bien de la patrie, c'est-à-dire du pays de mon père. Il y a une connotation sexuelle, et pourquoi ça serait pas la matrie? Pourquoi est-ce... Mais si!
Oui, d'accord.
Non, mais c'est tout l'enjeu. Pourquoi est-ce qu'il y a un antipatriotisme? Parce que c'est la maison, c'est la terre de mon père. Donc, toi, tu es né où? Tu n'es pas né sur la terre de mon père. Donc, t'es pas de chez moi. Le patriotisme, c'est la porte, pas à un racisme, mais une xénophobie. Je préférais qu'on dise, j'appartiens à la nation. D'où que tu viennes, tu fais partie de la souveraineté.
Oui, mais sauf que c'est l'inverse.
Nationaliste, c'est pas possible. Ouais. Voilà. Donc, effectivement, moi, je crois à la notion de nation. Peu importe d'où nous venions, nous avons un destin commun. On constitue une nation française. Célébrons. Et le 14 juillet.
Mais est-ce qu'on le fait suffisamment,
alors,
encore
juillet,
une fois?
C'est Perico, pas la prise de la Bastille.
C'est la question de ce maire dans l'Aisne. C'est la question. Moi, je peux me prononcer. Bah, à titre personnel, c'est comme ça. Moi, j'habitais, je le continue à le faire. J'habite à différents endroits ces dernières années. Le 11 novembre. Tous les 11 novembre, je me rends au Monument aux Morts pour participer à la cérémonie qui est organisée par la mairie. Alors, je le fais, on dit qu'on n'a pas de temps. Moi, j'y vais juste, voilà, c'est à 11h, généralement. Alors, quand je ne travaille pas, mais ça m'est même arrivé de poser un jour de congé.
Oui.
Je le fais une fois dans l'année. Voilà. Mais pour moi, c'est important.
Rémi.
C'est tout. Et je suis content. Je suis content de vous, quand il y a du monde. Et quand il y a peu de monde, ça m'est arrivé d'être, aujourd'hui j'habite Combray, mais j'habitais avant dans une commune de la région parisienne, il n'y avait pas beaucoup de monde, là j'étais un peu triste. Est-ce qu'on n'a pas besoin de ça? Juste, et c'est pas des revendications nationalistes.
C'est pas le problème, Rémi.
C'est juste, à certaines dates, je suis content de voir qu'on partage les mêmes.
Bien sûr.
Non, mais attends.
C'est un devoir mémoriel.
La même valeur, les mêmes.
Arrêtons de contourner l'obstacle, c'est pas le problème.
L'amour du même pays.
Non, c'est un problème de culture. L'école n'apprend plus, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce qui s'est passé le 11 novembre, parce qu'on nous désinforme et on ne sait pas ce qui s'est passé.
Je me tourne.
Voilà. Donc la jeunesse aujourd'hui est inculte. Ouais. Les élèves
c'est
sont
pas
incultes.
Que la jeunesse, Perico.
Attendez, s'en foutent. Allez. Voilà. Mais le problème, il est là.
Je me tourne vers le responsable de la déculturation de nos enfants, Benjamin Amar. Évidemment, je te taquine, Benjamin. Professeur d'histoire géo, est-ce que, Benjamin, tu penses qu'aujourd'hui on manque de patriotisme dans notre pays ?
Moi, je ne pense pas du tout que ce soit la question. Je pense qu'en l'occurrence, plus on manque sans doute d'une culture patrimoniale. Voilà. Pas pareil. Mmh. Moi, contrairement, je suis très à gauche et j'ai pas de problème avec la patrie. Mais pour moi, par exemple, il y a une de mes chansons préférées, c'est Ma France de Ferrat. Mais encore faut-il savoir ce qu'on met dans justement cette notion de la patrie. Moi, c'est comme Ferrat. Ma France, c'est celle des croquants et des lustus crus, les paysans révoltés, c'est celle de 1793, c'est celle de Robespierre, c'est celle des canuts lyonnais, c'est celle de la Commune et de la Résistance. Et je pense que le 11 novembre, c'est intéressant parce que tout à l'heure sur BFM, vous aviez mis derrière le monument aux morts de la commune de Gentiou, où il est écrit que maudite soit la guerre. Un monument qui avait été à l'époque l'objet de très grandes polémiques. Ouais. Parce que sur la notion de patrie, moi j'ai pas de problème, je viens de le dire, mais il faut se souvenir la phrase d'Anatole France. On croit mourir pour la patrie en 14-18, on meurt pour des industriels.
Ben oui.
Donc c'est une notion à prendre en lien avec ce que tu as dit, voir comment est-ce que le patriotisme ne dérive pas vers le nationalisme. Mais en l'occurrence, on est le 8 mai 45 aujourd'hui. Moi, je vous le dis très tranquillement. Le 8 mai 45, pour moi, c'est pas tellement de rendre hommage à la patrie, c'est de rendre hommage à la résistance. Sur lequel il y a une ignorance complète. Et je pense qu'il y a quelques semaines, moi je dis rarement du bien du gouvernement d'Emmanuel Macron, mais la panthéonisation de Missak et de Méliné Manoukian a été une très bonne idée, qui a remporté une adhésion populaire et un intérêt. Dans plein d'endroits, on a regardé cette panthéonisation. Mais encore une fois, il faut toujours... Donc là, c'est plutôt l'héritage de la résistance, ce qu'a constitué la résistance, son modèle politique et social. Je pense que c'est ça le 8 mai. Mais
est-ce que c'est pas important, encore une fois, de faire preuve de patriotisme à titre individuel? Ce que je veux dire
par là,
Benjamin, ce que je veux dire par là, c'est que s'arrêter à certaines dates qui sont consacrées par la République, le 8 mai, le 11 novembre, par exemple, le 14 juillet, et ce jour-là, juste de s'arrêter un instant, de se dire voilà, la France, c'est mon pays.
Oui.
Quelles que soient mes origines, c'est le pays dans lequel je vis.
Oui.
Voilà. Je peux être père de famille ou mère de famille. Et à ce moment-là, juste prendre juste un instant.
Mais Rémi.
Je termine, Benjamin. Oui. Ça peut être juste, je ne sais pas, je ne dis pas qu'il faut le faire absolument. Chacun fait ce qu'il veut. Mais à ce moment-là, juste de mettre un petit drapeau tricolore à sa fenêtre, par exemple. Je veux quand même terminer. Et à ce moment-là, de s'arrêter un instant pour soi, pour ceux qui font partie de notre famille, nos enfants, nos compagnes, nos compagnons.
Interdit.
Et juste, tu vois, à ce moment-là, dire, bah, tiens, je mets le petit drapeau, on est le 8 mai.
Interdit.
C'est important.
Alors moi, je te réponds à ça, j'avais compris ton idée, tu l'avais exposé, mais moi, je pense encore une fois que l'important, c'est pas tant de mettre ton drapeau. Par contre, il y a par exemple, moi, je mets pas un drapeau, par contre, j'écoute Léo Ferré, la chanson La Fiche Rouge. Parce que ça, c'est adapté justement au moment. Donc, comment tu traduis ça, je sais pas si juste mettre un drapeau, c'est plus réfléchir à ce qu'a été l'héritage de la résistance pour faire nation. Voilà.
Benjamin, je t'arrête parce qu'on vous êtes très, très, très nombreux à nous appeler au 32-16, à réagir également sur Direct Studio. On lira des messages. Commémoration du 8 mai, manque-t-on de patriotisme dans ce pays. Vous nous appelez au 32-16 comme le fait Christophe. Bonjour Christophe.
Bonjour à tous.
Merci
bonjour.
De nous rejoindre dans l'Estelle Midi. Vous êtes dans l'Oise?
C'est ça, oui, tout à fait, à Méru.
Très bien. Vous faites quoi dans la vie, Christophe?
Je travaille à la mairie de Paris.
Très bien. Vous êtes, je sais pas, c'est la voix peut-être, mais vous êtes jeune? Quel âge?
Oui, 38 ans.
38 ans, ouais, c'est jeune. Christophe, oui. Est-ce qu'on manque de patriotisme dans ce pays?
Ah, clairement, oui, pour moi, oui. On a l'impression, c'est même un peu la honte. Moi, j'ai un drapeau français dans mon jardin. Quand j'ai acheté ma maison, la première chose que j'ai fait, j'ai mis mon drapeau dans le jardin.
Ça a quel sens pour vous?
Bah, un peu comme à l'américaine, vous voyez, ils ont tous des drapeaux, ils aiment leur pays. Moi, j'adore l'histoire de France. C'est les seuls cours où j'allais pratiquement à l'école. J'aime bien ça. Ouais, il n'y a pas de honte à aimer son drapeau. J'ai mis une fois un drapeau dans mon casier au travail. Tout de suite, on m'a catalogué comme facho. Et ah, toi, tu votes Le Pen. Rien à voir. J'aime la France et tout. Il n'y a pas de honte. Donc,
Le drapeau dans votre jardin, vous avez eu le droit à des remarques aussi ou pas?
Des remarques, oui, j'en ai eu. Après, j'ai le voisin qui me dit, j'aimerais faire pareil, mais j'ai un peu peur. J'ai eu ça. Sinon, ça se voit que t'es bien en campagne, comme je suis en Picardie. Tu peux pas faire ça en ville. Ou une fois aussi, quand c'était la Coupe du Monde, mes voisins anciens, ils sortaient leur drapeau, ils le mettaient à la fenêtre, ils le rentraient tout de suite après en disant, non, je veux pas de problème, là c'est la Coupe du Monde, on peut le sortir. Bah non, on est français tous les jours, tous les ans, et voilà.
Christophe, quel sens pourquoi vous avez ce besoin d'afficher?
On peut faire ça non d'afficher, mais pour moi, on est quand même en France. C'est un peu comme à l'américaine, vous voyez, ils mettent des drapeaux partout. J'ai l'impression, il y a moins en moins de drapeaux français. Il y a plus des drapeaux européens que des drapeaux français. Et pourtant, il y a
sur pas les bâtiments officiels.
Oui, c'est ça. Et même sur les bâtiments officiels, la plupart du temps, les drapeaux, ils sont pratiquement déchirés, enroulés. Enfin, ils montent pas vraiment que le drapeau européen, il flotte au vent. Ça, il y en a plus souvent, malheureusement.
Merci, Christophe, d'avoir été avec nous. C'est court, mais vous êtes nombreux, encore une fois, à nous appeler. Philippe est avec nous. Bonjour, Philippe.
Oui, bonjour.
On est dans le Var.
Oui, c'est ça, vous êtes à l'Orgue.
À l'Orgue, très bien. Vous faites quoi dans la vie, Philippe ?
Je suis retraité.
Retraité, très bien. Est-ce qu'on manque de patriotisme dans notre pays ?
Oui, bon, après, c'est une histoire assez, assez longue, mais oui, il y a certains faits historiques en France qui n'ont pas aidé au patriotisme. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut redorer ce blason et rehausser le patriotisme. C'est que j'écoutais mon collègue juste avant là, qui disait que c'est pas normal qu'on n'affiche pas un drapeau bleu et rouge à 5 mètres le 8 mai, le 14 juillet et puis à d'autres occasions. Et ça, c'est vrai, on devrait prendre le modèle américain, je pense, hein, aux USA.
Et qu'est-ce que vous pensez que ça nous apporterait?
Je pense que c'est un droit de dire des Français, hein, et puis surtout, c'est rendre quelque part la mémoire à ceux qui sont plus là aujourd'hui et qui ont contribué à la liberté, hein, à ce qu'on est aujourd'hui.
Benjamin.
Non mais moi je pense que le fait d'afficher un drapeau français n'a rien de problématique. C'est effectivement bon bah voilà, c'est le sentiment d'appartenance à une patrie. Moi ça ne me pose aucun souci. Moi je suis attaché à la fois au drapeau bleu blanc rouge et au drapeau rouge, le drapeau internationaliste. Voilà, c'est ces deux drapeaux qui sont à mes yeux importants. Et je rappelle la phrase de Jaurès, un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup d'internationalisme en rapproche. Mais encore une fois, il faut savoir ce qu'on met dedans. Voilà. Et je ne pense pas, moi, que... Enfin, si on met un drapeau derrière, il faut savoir ce à quoi on fait allusion, ce à quoi on pense. Le 11 novembre, on peut très bien aller à une cérémonie. Mais on se souvient aussi que le 11 novembre, on commémore une guerre dans laquelle on a envoyé des millions de Français dans une boucherie qui n'avait pas à voir grand-chose avec l'amour de la patrie, mais encore une fois, avec des intérêts économiques qui ont, comme le disait Anatole France, servi les industriels. Je pense qu'on réfléchit sur ces concepts. Là. On n'est pas fermé et obtus.
Yeah. Oui, mais Benjamin, là, tu limites en réalité le patriotisme à une perception qui est guerrière et militaire. Je veux dire, le patriotisme, c'est de l'amour en réalité. C'est un sentiment amoureux qu'on a pour son
les
pays.
Les trois dates auxquelles on fait allusion, notamment 45 et 14-18, que vous le vouliez ou non, c'est des guerres.
Voilà. Oui, mais absolument. Mais ce que nous célébrons, Benjamin,
patriotisme à service des causes militaires. Vous ne pouvez pas mettre ça de côté.
Mais c'est fondateur de notre République.
Ok. Et donc, je te dis qu'en lien avec ça, en lien avec des conflits qui ont été meurtriers, même si 39, 45 et 14-18, c'est pas la même chose, parce que une est en effet une guerre contre le nazisme et pas contre l'Allemagne, ça n'empêche pas que donc on doit avoir dans cette réflexion que le patriotisme est quelque chose de comment dire, sur lequel qu'on doit prendre avec des pincettes parce que ça peut dériver dans des conflits militaires.
Oui, le patriotisme, c'est l'histoire de notre pays avec ses zones d'ombre et ses zones de lumière. Je veux dire, tu parles de la guerre 39-45, c'est Pétain, mais c'est aussi Charles de Gaulle. Voilà.
Mais
chacun y met ce qu'il veut. Ce qu'on commémore le 8 mai, c'est la victoire justement sur le nazisme.
Derrière, en 39-45, il s'est passé des tas de trucs. Notamment un modèle social et politique que moi j'ai envie de mettre en avant. Mais peut-être qu'on n'a pas tous les uns et les autres la même conception de la patrie. Et moi je refuse de me faire enfermer dans conception de la patrie qui n'est pas la mienne.
Oui, mais là, il faut bien distinguer le patriotisme avec le nationalisme.
S'il vous plaît, commémoration du 8 mai, manque-t-on de patriotisme dans ce pays? Vous continuez à nous appeler au 32-16 et je dis justement, parce que Dominique Lormier nous rejoint. Bonjour Dominique Lormier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous êtes historien, lieutenant-colonel de réserve, auteur de nombreux ouvrages. Le dernier, si je ne me trompe pas, c'est Les Vérités Cachées de la Libération aux éditions du Rocher et Les Nouvelles Histoires Extraordinaires du Débarquement, dont on va fêter le 80e anniversaire chez Alizio. C'est ça, hein ?
Absolument, et je suis également membre de l'Institut Jean Moulin.
Très bien, mais merci d'être avec nous, Dominique Lormier. Dominique Lormier, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, en France, on l'a entendu avec certains de nos auditeurs qui nous ont appelés, on le sait, l'extrême droite a confisqué pendant de nombreuses années le drapeau tricolore, les références patriotiques, à tel point qu'un certain nombre de Français aujourd'hui, on l'a entendu, hein, ont peur un peu parfois d'afficher un drapeau ou de peur d'être taxé de facho. Voilà, je reprends les termes qui ont été utilisés tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours ce côté un peu gênant, honteux pour certains d'afficher leur patriotisme en France ?
Eh ben écoutez, moi j'ai une vision plutôt positive. Je pense que le patriotisme est affiché à travers tous les partis politiques, hein, de toute manière, aussi bien de la France insoumise que jusqu'au au Rassemblement national. Il a largement partagé aussi par la population, et on le voit à travers les événements sportifs, parce que le patriotisme, on ne peut pas simplement le réduire à des événements militaires, etc. On peut également le diversifier, le voir à travers aussi les événements sportifs. Lorsque la France gagne au rugby ou au football ou dans d'autres compétitions, il y a une véritable ardeur patriotique. Donc on peut dire que le patriotisme est toujours présent, d'une manière, je dirais, moins cocardière et nationaliste comme on l'a connu avant la Première Guerre mondiale, qui nous a amené à la catastrophe que l'on connaît. Et je dirais que c'est un patriotisme qui est plus intime, plus, je dirais, au niveau du cœur et de l'esprit, et qui n'est pas du tout affiché d'une manière ostentatoire, comme on peut le voir aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il soit pas présent. Justement, il est présent. La nation américaine a quand même vécu un véritable traumatisme suite à la guerre du Vietnam, où il y a eu 70 000 soldats américains qui ont été tués durant la guerre du Vietnam. Mmh. Or, la France a eu 1 400 000 morts durant la Première Guerre mondiale et 600 000 après la Seconde Guerre mondiale. Donc, effectivement, les perspectives sont tout à fait différentes. Et je dirais que le socle du patriotisme est encore présent et fort au sein de la population, à travers ces différentes populations, justement, pure et ethnique, mais néanmoins forte. Et on le voit à travers notamment l'armée française de libération, où on avait des Français de toute origine, des musulmans, des chrétiens, des juifs, des agnostiques qui ont participé à la libération de la France. Mmh. Et la résistance a été justement un foyer où il y a eu des gens de toute opinion différente qui se sont réunis, unifiés à travers la figure emblématique de Jean Moulin et de Pierre Brossolette, qui ont été les deux grands unificateurs de la résistance avec le général de Gaulle, et la France a pris une part prépondérante à l'histoire des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale, à travers non seulement la résistance intérieure, les forces françaises libres et ce qu'on a appelé l'armée d'Afrique.
Dominique Lormier, malgré tout, lorsqu'on entend ce maire de l'Aisne, je n'ai plus le nom de la commune en tête, mais qui se plaint, qui dit, bah voilà, le 8 mai, moi je vois de moins en moins de mes administrés qui viennent à la cérémonie, au monument aux morts, le 11 novembre, pareil, qu'est-ce que vous lui diriez à ce maire?
Ben, je lui dirais de toute façon qu'on peut pas réduire le patriotisme à des commémorations. Le patriotisme, c'est à travers trois valeurs de la République, la liberté, l'égalité et la fraternité. La fraternité, on peut la voir à travers tous ces gens qui travaillent dans les hôpitaux, prenant soin des autres, à travers les activités sociales au sein des différentes populations, à travers également l'enseignement que certains veulent décrier mais qui est néanmoins présent, et à travers les commémorations qu'on a vu récemment à travers qui ont été décidées par Emmanuel Macron avec justesse. Exactement. J'étais présent là justement sur une chaîne de télévision pour commémorer la rafle des enfants d'Izieux, mais également pour parler de la bataille des Glières. Donc je dirais que le patriotisme, on ne peut pas le limiter simplement à des commémorations liées à la Seconde Guerre mondiale ou à la Première Guerre mondiale. C'est, je dirais, multiple et varié à travers les valeurs essentielles de liberté, d'égalité, de fraternité qui sont le ciment qui donne le patriotisme.
Merci beaucoup Dominique Lormier d'avoir été avec nous, historien, lieutenant-colonel de réserve. Et je cite encore une fois vos deux derniers ouvrages, Les vérités cachées de la libération aux éditions du Rocher et Les nouvelles histoires extraordinaires du débarquement chez Alizio. On continue de vous poser la question, commémoration du 8 mai, manque-t-on de patriotisme dans ce pays? Alain nous rejoint, bonjour Alain.
Oui, bonjour, pas de problème, je suis là.
Ah bah, merci d'être avec nous. Alain, vous nous appelez d'où?
Je suis à Marbeau d'Arlin.
Très bien, vous faites quoi dans la vie?
Là, je suis à la retraite, je suis un ancien militaire.
Très bien, quelle arme?
J'étais dans l'armée de l'air jusqu'à l'âge de 47 ans, parce que j'étais adjudant. Mm-hmm. C'était la limite d'âge pour les sous-officiers.
Très bien.
Et donc, j'ai 72 ans à l'heure actuelle.
Bon, le patriotisme, ça vous parle, j'imagine. Est-ce que vous pensez qu'on en manque dans ce pays?
Oui, tout à fait. Là, il y a plus de, il, y a, il manque beaucoup d'entraide, si vous voulez, de la communauté. Les gens deviennent de plus en plus égoïstes. Ils pensent qu'à eux-mêmes, ils pensent qu'à l'argent. Ils ne sont plus attirés les uns avec les autres. Il y a plus d'entraide comme il y avait. Quoi.
Et l'entraide dont vous parlez, ça passe par le patriotisme?
Ben je pense, si vous pensez aider votre voisin, vous pensez aider la France, vous pensez, il y a une grande idée qui est quand même être français et aimer la France, quoi. Je pense.
Et vous-même, est-ce que vous vous rendez aux commémorations?
Je m'y suis rendu, je n'y suis pas allé cette année.
Ah.
Pour la bonne et simple raison que l'année dernière, je suis nouvel habitant dans
d'accord.
Ce petit village de 2000 habitants. Et donc, l'année dernière, j'y suis allé pour la première fois avec mes médailles. Et je me suis présenté au maire, donc, et au conseil municipal. Et donc, on m'a dit qu'on viendrait me voir plus tard. Et ça fait un an que j'ai jamais vu personne, quoi, en fait.
Ouais, ça vous a un peu vexé.
Donc, c'était un déni de mon statut, si l'on peut dire. Et donc, je ne vois pas l'intérêt d'aller... rendre les armes, si vous voulez, à la commune. Je vais préciser quand même que mon papa a été dans la résistance. Il a participé à la destruction du viaduc de Busseau-sur-Creuse, dans la Creuse.
C'est ça aussi, Benjamin. Ouais. Bon, merci beaucoup, Alain, d'avoir été avec nous. C'est des histoires personnelles, des histoires familiales.
Bien sûr.
C'est ça aussi qui constitue notre.
Mais bien sûr. Moi, j'ai été bercé par les histoires de mon grand-père, qui a participé à la bataille du Mont Cassin et au débarquement en Provence. Et ça, quand votre grand-père, il vous explique ça, en vous disant, moi, j'étais français, mais juif d'Algérie. Et donc, je savais bien que j'étais doublement concerné par ce combat. Et voilà, il a failli laisser sa peau. Et ça, c'est des choses qui vous constituent une identité, bien sûr.
Commémoration du 8 mai, manque-t-on de patriotisme dans ce pays? Le résultat, Alfred, il est marquant.
Oui,
je dirais.
Oui, parce que vous répondez oui à 85%, non à 15%. Un dernier message pour finir. Nicolas qui nous dit, j'ai l'impression que l'on revendique un régionalisme plutôt qu'un patriotisme. En Bretagne, on est d'abord breton, en Corse pareil, à Marseille aussi. Nos régions sont tellement identitaires que se rassembler derrière un drapeau commun peut donner la sensation de perdre son identité locale.
Ouais, bah.
C'est pour ça. Aux étrangers qui donnaient le vertige.
Tu nous rappelles, c'est Jean Ferrat, c'est
le Ma France.
Ma France. C'était pour toi, un petit cadeau.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi. Tous les matins, réveillez-vous avec RMC.
À 4h30, votre premier journal. 5h, 6h30, Charles Matin.
6h30, 9h, Apolline Matin et le face-à-face à 8h30 avec un invité qui fait l'actualité. RMC, le matin.
Le réflexe info.
Tout RMC en podcast.
Sur l'appli RMC. Sur RMC, la nuit. RMC. C'est le meilleur de la journée. Rediff. RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
On commence avec Apolline Matin. La flamme olympique arrive à Marseille. Est-ce le premier défi sécuritaire de ces JO? C'est le début donc d'une période sécuritaire sous très haute tension en France. De Marseille à la cérémonie d'ouverture à Paris le 26 juillet prochain, les autorités parlent d'un défi sécuritaire hors norme. Camille Chaise est la porte-parole du ministère de l'Intérieur. Elle était l'invitée d'Apolline Matin ce matin et elle se veut rassurante.
Les risques, on les connaît, hein. Il y en a un certain nombre pour le relais de la flamme, pour l'arrivée de la flamme à Marseille, comme pour l'ensemble des Jeux Olympiques. Il y a le risque cyber qui est toujours présent. On pense tous malheureusement au risque terroriste, parce qu'on sait que le niveau de menace est élevé, même si les Jeux Olympiques n'ont pas été ciblés en tant que tels, mais le risque est là, et malheureusement certains événements les mois passés nous ont rappelé que un passage à l'acte est toujours une possibilité. C'est pour ça que le dispositif aujourd'hui à Marseille, ça y est en place avec ces filtrages importants. Il y aura des fouilles de sacs, des palpations de sécurité pour que tous les spectateurs qui viennent sur le Vieux-Port soient vraiment présents. Alors, mais avec ce niveau de sécurité.
Péricot, les JO 2024 en France, ils débutent véritablement aujourd'hui, chez nous, en France. Est-ce que tu es inquiet?
Le risque, la période, ce n'est pas les JO en tant que telle. La période que nous vivons, le contexte politique, géopolitique international et les derniers événements depuis une dizaine d'années font qu'on prend un risque énorme. Mais est-ce qu'on doit pour autant arrêter de vivre? Mais on sait, quand ça sera terminé, s'il n'y a rien eu, on dira ouf, on aurait pu passer pas loin de la catastrophe parce qu'il y a évidemment des gens qui vont essayer de troubler. Il y a deux points sensibles qu'on n'a jamais évoqués. Ce sont les 75 grands terroristes qui sont sortis de prison, absolument pas guéris. Ils sont en liberté. Et ce sont des gens qui ont commis des crimes. Et il y a tous ceux qui sont allés faire le djihad à Daesh, dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'ils ne sont pas morts? Ils sont peut-être revenus sur le territoire français.
Ouais, fallait... Nos services de renseignement ont quand même un certain nombre d'éléments. Non, les 75 dont tu parles,
l'information...
T'as pas confiance dans la surveillance opérée par nos services de renseignement?
Non, l'information vient des pouvoirs publics.
Donc tu n'as pas confiance dans la surveillance opérée par nos services de renseignement?
C'est des gens qui travaillent pour les pouvoirs publics, qui disent on ne sait pas où ils sont et on ne sait pas ce qu'ils font. Voilà. C'est la seule ennemie où on pourrait... Pour le reste, on fait ce qu'il faut. Maintenant, c'est un risque qu'on a couru, on a décidé de le courir. Si ça se passe bien, ouf. Et si on a une catastrophe, on dira, de toutes les manières, on ne pouvait pas tout empêcher, tout arrêter, sinon on ne fait plus rien.
Est-ce que tu es inquiète, Yael?
Ouais, moi je suis très inquiète au regard du contexte géopolitique.
Bon, on va dire les choses, c'est quoi? Ce qui t'inquiète, c'est le conflit israélo-palestinien?
Absolument, absolument. Ah, évidemment. Et le risque d'attentat. Je suis inquiète de savoir comment ça va se passer avec la délégation israélienne. Il faut dire, il y a un passif quand même qui est assez terrible. Enfin, voilà. Mais en même temps, j'ai confiance aux forces de l'ordre de notre pays. Au service de renseignement, donc et puis voilà, j'espère que de tout mon cœur que tout se passera bien et que ce sera vraiment une fête.
Benjamin Hamar.
Non mais il faudrait être complètement déconnecté pour ne pas être inquiet et ça n'a rien à voir avec les compétences des services de renseignement.
Ils font leur boulot.
Les services de renseignement, ce sont des humains. Et on sait bien que même des services de renseignement très efficaces peuvent avoir des trous dans la raquette à des moments. On se souvient tous de ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 et de la mise en cause de la CIA à l'époque sur justement les signaux faibles qu'elle n'avait pas pris en compte. Très récemment, le 7 octobre, les services de sécurité israéliens qui sont réputés parmi les meilleurs, voire les meilleurs au monde, il y a eu une défaillance complète, si bien que le renseignement, d'ailleurs le chef du renseignement militaire a démissionné il y a très peu de temps. Et donc, bien sûr qu'il faut rester, enfin, il faut être inquiet au vu de la situation. D'autant plus que pour ce qui concerne les Jeux Olympiques, on a tous en tête ce qui s'est passé à Munich en 1972. Donc, bien évidemment que, mais on n'a pas besoin de le dire, je suppose que, et j'en suis persuadé que les services de renseignement ont ça en tête, mais tout ceci, ce sont des événements massifs dans lesquels il y a des foules. À Marseille, énormément de monde est attendu. À Paris, pour la cérémonie d'ouverture, on n'en parle même pas. Et donc, tout ceci me semble un casse-tête. D'ailleurs, j'ai hâte de voir ce qui découlera à la fin sur la cérémonie d'ouverture. Il y a fort à parier qu'on va se retrouver avec une cérémonie minimaliste et ultra surveillée. Donc, bien sûr que de tout notre cœur, on souhaite que ça se passe très bien, mais bien évidemment aussi que légitimement, on partage une inquiétude.
Apolline Matin, on parlait terrorisme ou risque terroriste. Bah justement, on va parler des victimes des attentats. Les victimes des attentats sont-elles les grands oubliés de l'État? Fred De Wilde, l'un des rescapés du Bataclan, a mis fin à ses jours. C'était dimanche dernier. L'homme était âgé de 58 ans, père de 3 enfants. Il était dans la fosse du Bataclan le soir des attentats, le 13 novembre 2015. Il s'était reconverti en auteur de BD après les attentats. Nicolas Poincaré en a fait le portrait ce matin.
Oui, il s'appelait Fred De Wilde, il avait 58 ans et 3 enfants. C'était un rescapé de la fosse du Bataclan. Au départ illustrateur médical, il était devenu auteur de bandes dessinées et notamment d'un album intitulé Mon Bataclan, dans lequel il racontait avec des images terribles et ultra réalistes les 2 heures passées sous les balles des terroristes le 13 novembre 2015. Il décrivait 2 heures d'enfer plongées dans le sang des autres. Depuis 9 ans, et notamment au moment du procès, il n'avait jamais caché sa dépression. Il s'est finalement suicidé donc dimanche dernier. Sa famille l'a annoncé en saluant son courage, en disant qu'il a été terrassé par la violence de ses traumas et en concluant « Le soldat Fred est tombé, aujourd'hui nous sommes ses héritiers ».
Le soldat Fred est tombé, c'est très poignant c'est ces mots utilisés, il s'est battu. Il n'a jamais cessé de se battre depuis le 13 novembre. Et c'est terrible, Yael. L'attentat du 13 novembre est toujours... C'est terrible ce que je veux dire, mais il est toujours en cours, quelque part. Parce
absolument.
Que c'est...
Mais c'est, il faut bien... Enfin, évidemment qu'on mesure l'horreur de ce que ces personnes, ces rescapés ont vécu, mais ce sont des véritables traumatismes de guerre. Voilà, c'était un terrain de guerre. Enfin, je veux dire, les intervenants, les policiers, c'était une scène de guerre. Ils l'ont dit. Aujourd'hui, il y a en Israël, il y a déjà des rescapés du 7 octobre qui se suicident. Voilà. Enfin, je veux dire, on a quand on est dans des scènes de guerre comme ça, on a les traumatismes d'une exceptionnelle gravité qui vont avec. Et quand bien même il y aurait un soutien psychologique, parfois la souffrance est trop envahissante, et pour s'en libérer, hélas, la seule manière que ces personnes qu'ils ont, c'est le passage à l'acte suicidaire. C'est terrible.
Ce constat ne me suffit pas. Je connais des gens qui ont vécu la tragédie du 14 juillet à Nice, qui ont vu des gens écrasés sous leurs yeux, des enfants par le camion. J'aimerais bien qu'on prenne quand même le 7 octobre et Gaza, même chose. Tout ça, c'est une tragédie. Sur la même thématique, on a quand même, à un moment donné, l'intégrisme musulman qui est là, qui, heureusement, représente une minorité de cette religion, mais ils sont actifs. Est-ce qu'on a pris, aujourd'hui, c'est bien de se lamenter sur les victimes, et là, c'est la dernière victime. Ça veut dire que la plaie est encore ouverte et qu'elle saigne. Est-ce qu'on a pris les mesures nécessaires et courageuses pour que ça ne se reproduise plus, ou peu, ou moins? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et là, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas un attentat pendant les Jeux Olympiques. On va faire au maximum. Hein, mais ce mal est là, il sévit. On sait que Daesh est en train de se reconstituer. Les menaces continuent et ils sont en action permanente. Donc on n'est pas du tout sorti de la tragédie.
Benjamin.
Le respect pour les morts, c'est de faire en sorte qu'il n'y en ait pas d'autres. Pour l'instant, tout n'a pas été fait, c'est pas vrai.
Benjamin. Mais alors, je vois le bandeau, grande victime de l'État, point d'interrogation, de l'État sans doute, mais j'ai l'impression, moi je vous livre mon opinion, c'est très subjectif, mais j'ai le sentiment que, pour le coup, puisque on parlait de patriotisme tout à l'heure, la solidarité nationale autour de ces victimes, moi je la trouve pas au niveau.
Voilà.
Je le dis franchement.
Tu as raison.
Et là, pour le coup, c'est pas forcément l'État. Il y aurait un bilan à faire, mais nous, collectivement, je trouve que ce drame qui a été terrible. Enfin, on se souvient tous de comment, pendant plusieurs jours, Paris a été mis sous cloche. Je trouve que ça n'a pas été dirigé, ça n'a pas été digéré par la société. Je ne trouve pas.
C'est-à-dire qu'on est passé trop vite à autre chose.
Ouais, c'est ça. Et que l'expression de la solidarité collective, je ne l'ai pas perçu, mais je ne l'ai pas ressenti.
J'entends ce que tu dis, et alors j'essaie d'apporter une certaine contradiction, mais est-ce que justement, ce n'est pas ça la victoire contre le terrorisme? C'est de passer. C'est terrible pour les victimes, mais c'est de passer à autre chose.
Qu'on continue à vivre, c'est une chose.
Pas d'ignorer,
mais il y a eu des victimes et qui souffrent, et on le voit bien à travers cet acte terrible. Donc, il y a un moment où, il y a des drames qui se passent dans un certain nombre de pays, et il y a l'expression d'une solidarité collective. Absolument. Là, pour le coup, tu vois, bien plus que les célébrations du 8 mai, qui, pour moi, c'est pas un sujet, ça, c'est un sujet. Pourquoi est-ce que ça n'est pas plus... moi, quand vous discutez autour de vous, les gens avec qui je discute, d'horizons divers, j'ai pas l'impression que ça... Il y a eu un avant et un après.
Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, d'autant qu'il y a des hommages des victimes de ces actes terroristes. Mais on rend hommage aux morts. Or, ces actes terroristes sont des bombes à fragmentation pour ceux qui restent. Il y a des blessés qui ont des blessures physiques, il y a des blessés qui ont des blessures physiques et psychologiques, et qui ne s'en remettront jamais. Et c'est effectivement
à eux qu'il faut qu'on pense. On reprend le dessus et qu'on revint vers la console avec le chariot, parce que la vie continue, il faut consommer. La vérité, elle est là.
Les GG, parents séparés, faut-il instaurer un devoir de visite pour les pères absents? Dans un entretien au magazine Elle, le président de la République a fait part de sa volonté d'ouvrir un débat sur le droit de visite des pères dans les familles monoparentales, sur le devoir. C'est un devoir d'être parent, dit-il. Du blabla pour Didier Giraud, chroniqueur des GG.
On en fait souvent le constat, une partie des problèmes qu'on a dans la société française et par rapport à la jeunesse, c'est les problèmes d'éducation. Que ces problèmes d'éducation sont souvent liés au rapport à l'autorité, et que dans les familles, c'est parfois le père qui incarne le plus l'autorité. Quand le père, il a choisi d'être absent, moi je suis d'accord que Macron, il s'intéresse au sujet, mais qu'est-ce qu'il a comme moyen pour rendre le père présent quand il est absent?
Aucun.
Moi, je crois que c'est du blabla une fois de plus, et que tu n'as aucun moyen de contraindre le père à assumer sa part d'éducation de ses enfants quand il a choisi d'être absent.
Yael Melul, ancienne avocate, fondatrice de Femmes et Libres. Est-ce qu'il faut imposer, comme en tout cas il réfléchit Emmanuel Macron, un devoir de visite pour les parents qui seraient absents, dans une immense majorité des cas, le père?
Alors non, de manière catégorique c'est non, et en plus de ça, je vais rajouter que c'est une très 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 mauvaise idée, et en plus, le pire d'ailleurs, c'est que ça démontre la méconnaissance, voire l'ignorance totale en réalité de ces problématiques de parentalité, parce qu'il faut quand même savoir que la majorité des familles monoparentales, hein, ou qui sont donc des femmes, 60% sont des femmes, et elles sont victimes de violences conjugales, ces femmes-là. D'accord, donc je dis 60%.
Non, tous, oui.
Donc quand on dit qu'on veut instaurer un devoir de visite pour le père, c'est qu'on ne comprend rien en réalité aux violences intrafamiliales. Alors que nous sommes, tous les experts qui travaillons sur les violences intrafamiliales, nous nous battons depuis des années et des années pour que précisément ce droit de visite soit limité au maximum pour les pères, les ex-conjoints qui sont violents. De dire qu'un conjoint, un ex-conjoint violent est de fait un père violent. Donc on ne vienne pas nous dire qu'aujourd'hui on va systématiser un droit de visite pour les pères. Sous quelles conditions? C'est encore une mesure qui est sortie comme ça à l'emporte-pièce, sans a priori avoir qu'il n'y ait de véritables professionnels de la question qui a été consulté. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi.
Péricot, voilà. très court.
De quoi il se mêle? Parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas un président de la République qui va décider.
Exactement.
Rapproche-toi de ton micro.
C'est pas un président de la République qui va décider qu'un père agressif, on doit l'obliger d'aller voir ses enfants. Il faut voir au cas par cas, et c'est des sujets, je pense, qu'il le dépasse. Il a plein d'experts autour de lui. Là, visiblement, il a été ou pas ou mal conseillé.
RMC, midi 15h, Estelle Midi. RMC.fr et appli RMC.
RMC en direct, partout, tout le temps. RMC.
Et vous, quel est votre lien avec RMC?
RMC, c'est une radio où tout le monde peut échanger. On écoute tout le monde, en fait. Voilà. Ça me permet vraiment sincèrement d'évoluer. Et RMC, il n'y a que RMC qui propose ça.
Vous écoutez RMC, RMC vous écoute. Le standard RMC vous attend au 32-16.
RMC, bien plus qu'une radio.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff. Estelle Midi.
RMC s'engage avec vous.
Salut Solène.
Salut Rémi, salut tout le monde.
On parle tout de suite pension de réversion.
Ouais, c'est la pension que touchent les veuves et les veufs. Ils reçoivent une partie de la retraite de leur conjoint décédé sous certaines conditions. Il faut avoir au moins 55 ans, toucher environ 24 000 euros par an maximum quand on vit seul. Et ce n'est pas automatique surtout, il faut la demander. Et depuis septembre, 30 personnes nous ont contactés à ce propos. Beaucoup galèrent en fait à percevoir cette pension. Et comme Liliane, 81 ans, c'est son fils Philippe qui raconte.
C'est un vrai préjudice financier pour ma maman qui a du mal à finir les fins de mois. Elle m'a dit, ben non, je mange qu'un repas par jour, je me prive, donc je l'aide. Personne ne s'en occupe. Si moi je ne suis pas là, si je n'ai pas d'enfants, comment font les gens pour survivre? Les aînés, on ne les considère pas du tout. On voit bien comment maintenant les petites gens sont traités. Je ne suis même pas triste, je suis écœuré par le système.
Ça concerne combien de personnes au total en France, les pensions de réversion?
Mais c'est près de 4 millions de personnes, ah, et ce sont majoritairement des femmes. Elles représentent à peu près 90% des bénéficiaires. Ça s'explique parce qu'elles vivent plus longtemps déjà, mais surtout c'est un problème d'inégalité. Un homme veuf gagne généralement plus d'argent et ne rentre donc pas dans les critères. Impossible d'avoir des chiffres sur l'ampleur des dysfonctionnements, mais il y a régulièrement des réclamations à ce sujet. Ça, c'est ce que nous a dit la défenseure des droits qu'on a évidemment sollicité. Joëlle aussi nous a alerté. Elle touchait une pension de réversion de son ex-conjoint jusqu'à ce qu'elle se remarie et que ses revenus augmentent. Sauf que depuis, Joëlle a divorcé. Elle est de nouveau éligible, mais ne touche toujours pas sa pension.
Alors pourquoi y a-t-il autant de réclamations, Solène?
Principalement, en fait, à cause de la dématérialisation des services publics.
L'informatique qui ne suit pas.
Exactement. En fait, les personnes qui peuvent toucher cette pension sont par définition plus âgés et donc peuvent être, c'est pas le cas de tout le monde évidemment, mais peuvent être plus éloignés du numérique. Et ça complique les démarches qui ne sont pas forcément très simples à la base. Face à ces difficultés, écoutez bien, plus d'une personne âgée sur 7 renonce tout simplement à demander...
Donc on aurait le droit à cette pension, mais il ne va pas jusqu'au bout parce que
exactement,
c'est trop compliqué.
C'est ça. Super. Et donc l'assurance vieillesse propose donc la mise en place d'un système pour simplifier la demande de ces pensions.
Et le gouvernement, il fait quoi ?
Eh bien, il a entendu l'appel de l'assurance vieillesse. Et ouais,
c'est bien.
C'est une information AMC qu'on vous révèle aujourd'hui. La simplification de la demande de pension de réversion est prévue pour 2026. Ça, c'est une précision que le ministère du Travail
plus vite,
a fait.
Allez,
on va leur demander.
On se bouge un petit peu.
Donc, c'est une précision.
C'est hyper important. Enfin, voilà, tu parles de peut-être centaines de milliers de personnes dans
qui
la situation,
pas, ouais.
Des femmes, pour la immense majorité d'un certain âge, qui sont peut-être dans la difficulté du quotidien, alors qu'elles ont le droit. Ah ça, c'est un droit, quoi.
Mais bien d'accord, mais d'ailleurs, c'est le cas. Là, on parle de la pension de réversion, mais c'est le cas pour plein d'autres aides sociales. Là, en l'occurrence, ça sera cette simplification, elle aura la forme d'un formulaire pré-rempli. C'est le cas, ça va être le cas l'an prochain pour le RSA, ce formulaire pré-rempli. Et surtout, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Pour la mère de Philippe que vous avez entendu, tout devrait rentrer dans l'ordre. Il y a une erreur en fait du côté de l'administration. C'est pas encore réglé, mais c'est bien parti.
Et pour Joël ?
Et ben pour Joël, là, c'est plus compliqué. Alors, accrochez-vous. Le délai pendant lequel l'administration peut réévaluer sa pension est dépassé. En fait, la pension de réversion, elle est recalculée chaque année jusqu'à ce que le veuf arrive à la retraite.
D'accord.
Voilà. 3 mois après cette date d'arrivée à la retraite, la pension ne peut plus bouger. C'est ce qui s'est passé en fait pour Joël, parce que à partir du moment où elle a été divorcée et qu'elle aurait pu récupérer sa pension de réversion, et ben en fait c'était déjà cette
dépassé,
fameuse date était déjà dépassée.
Oui, bon.
Voilà, donc pas de miracle.
Au moins elle sait pourquoi.
C'est ça en fait. Ouais. Elle sait enfin pourquoi c'est bloqué alors que ça faisait 5 ans qu'elle n'avait pas de réponse claire là-dessus. Ben, en tout cas, un conseil pour vous qui nous écoutez, n'hésitez pas, surtout pas, à relancer l'assurance vieillesse ou la MSA, parce qu'en fait ce genre de problème de versement de la pension de réversion, ça se résout assez facilement. Donc faut vraiment pas hésiter.
Merci beaucoup Solène.
Exactement.
Merci beaucoup.
RMC midi 15h, Estelle Midi. Sur RMC, tous les matins dès 6h30, commencez la journée dans la bonne humeur avec Apolline Matin.
De l'écho, de l'actu, des débats, du rire dès le réveil, un journal toutes les demi-heures, les meilleurs invités et vous au 32-16.
RMC, Apolline Matin, du lundi au vendredi, 6h39.
Pour ne plus rien rater d'RMC,
téléchargez l'appli RMC.
Attention, bientôt,
la roue RMC revient. RMC au 32-16,
45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16,
75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Salut, c'est Jérôme Roten.
RMC, Roten sans flamme.
Événement dès 18h dans Roten sans flamme. Les Marseillais sont aux portes d'une finale de Coupe d'Europe, avant-match d'OM Atalanta avec Jean-Michel Larqué et Pascal Olmeta.
Ça va faire mal à Jérôme, on va être champion.
Rendez-vous dès 18h pour Roten sans flamme sur RMC.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Merci d'être avec nous, comme tous les jours, entre midi et 15h sur RMC et RMC Story, Canal 23 de la TNT. C'est Estelle Midi avec autour de moi et de toujours Alfred Orange, journaliste RMC, Perico Legas, journaliste à Marianne, Yaël Mellul, ancienne avocate, fondatrice de Femmes et Libres, et Benjamin Hamard, enseignant et syndicaliste.
RMC, Estelle Midi.
C'est complet. Entrée, tante maréchale. 4 places adultes, 2 places enfants. Ventilation latérale, couture étanche, double toit, tapis de sol polyétiné.
Ouais, c'est une tente, quoi.
Ouais, j'ai un petit peu plus quand même.
Camping, évidemment, Franck Dubosc. On parle du camping du jour. Camping qui ne ressemble plus vraiment à ce qu'il a été. De moins en moins d'emplacements de tentes à prix réduit. De plus en plus de mobilhome tout confort. Alfred, on appelle ça une montée en gamme.
Oui, une montée en gamme au détriment des campings traditionnels parce que le constat est là, Rémi, implacable. La France perd chaque année entre 80 et 100 campings. En 2010, il y avait encore 10 000 campings à travers le pays. Désormais, il n'y en a plus que 7 500, chiffres donnés par la Fédération française d'hôtellerie de plein air, avec des disparités puisque désormais les campings 3-4 étoiles avec piscine, tennis sont bien plus remplis que le traditionnel camping municipal où l'on plante sa tente. Un collectif vient de se former, il s'appelle Sauvons le vrai camping et il tente de limiter la place grignotée par les mobilhomes dont les emplacements ont doublé depuis 2011 dans les campings français. Pour ce collectif, si le camping traditionnel disparaissait, c'est l'accès aux vacances pour tous qui serait menacé.
Plus de tentes, ou en tout cas beaucoup moins de tentes que des mobilhomes. Et à quel prix? Est-ce que le vrai camping est mort? Vous nous appelez au 3216. Benjamin, tu as fait du camping?
Oui, oui, tout à fait. Je continue à en faire dans le cadre, notamment quand, voilà, dans un certain nombre de j'aime bien, ça m'arrive de moins en moins parce que je vieillis quand même, mais de faire du tourisme backpacker sac au dos. Et
c'est
dans
quoi, ces cas-là, il faut nous traduire.
Alors bah oui, sac au dos, voilà, sac au dos tout simplement. Okay. Et donc dans ces cas-là, notamment il y a des pays qui s'y prêtent bien, l'Écosse ou l'Irlande, c'est sympa, j'aime bien. Mais je pense
on parle de camping avec la tente, hein.
Oui, avec la tente, ouais, tout à fait. Maintenant on est dans une économie capitaliste et donc il y a l'histoire de l'offre et de la demande et bien évidemment le camping traditionnel a dû faire face à une volonté de monter en gamme de la demande, c'est-à-dire que les gens, ils aiment partir en vacances mais ils veulent avoir des services, donc la piscine,
les sanitaires,
le plus confortable. En fait, le camping,
la télé, avec le frigo, la plaque chauffante.
Avec le confort de la vie au quotidien. Et donc, fatalement, il y a eu cette montée en gamme. Bon, il faut non plus, peut-être, parce que j'ai, en 2023, 10 millions quand même de Français ont utilisé effectivement le.
Oui, mais regarde, regarde, ce qu'on a connu, toi et moi, parce qu'on en parlait, voilà, on va pas se cacher pendant la pause. Moi, j'ai été animateur en centre aéré, en colonie de vacances, toi aussi. On a connu le camping.
Populaire,
avec
oui.
Ouais, populaire. Et le camping populaire, c'était les campings municipaux, la plupart du temps, où l'emplacement, je sais plus combien c'était, mais c'était genre, tu plantais ta tente, on était à deux, ou avec les gamins, je parle des colons, de centre aéré, etc. C'était quoi? C'était 6 euros la nuit, ou quelque chose comme ça.
C'est encore le cas aujourd'hui.
Moins cher. Tout ça, ça disparaît, quoi.
Et ça permettait de faire partir pas mal de gens en vacances. Oui. Rappelons qu'il y a un Français sur trois qui part pas en vacances. Cette forme populaire de camping, effectivement, avec des services un peu, parfois un peu minimalistes, mais qui permettent de changer d'air, d'aller à la mer, à la montagne. Pardon ?
On n'en est pas mort.
Oui, mais toi, c'est un tourisme formidable.
On a fait la vaisselle dans les lavabos.
Vous vous renseignez quand même autour de vous, c'est vrai que même parmi la jeunesse, il y a moins de gens qui partent en camping dans cette forme de vacances-là aujourd'hui. Et je pense que c'est lié à cette demande de ceux qui peuvent encore partir et qui vont en camping-car ou qui vont dans les campings 3 ou 4 étoiles. Et donc, les classes populaires sont de plus en plus mises de côté sur les départs en vacances. Et ça explique sans doute ce que cette forme de tourisme-là, visiblement, se raréfie.
Plus de tentes, en tout cas beaucoup moins de tentes que des mobilhomes. Et à quel prix le vrai camping est-il mort? Vous nous appelez au 3216, Perico Legas.
Moi, j'ai fait ce que j'appelle le camping sauvage à l'époque où c'était autorisé. C'est dans le cadre d'une randonnée, on partait avec la tente et on couchait où on pouvait dans la montagne. Je pense à la scène du sanglier, si c'était tenté que c'était pas l'ours des Pyrénées qui vous réveillait le matin pour avoir une petite gaufrette. Voilà, c'est ma connaissance du camping. Et effectivement...
Moi, j'ai été réveillé par les vaches. Hein.
Ah bah oui, bien sûr.
Le matin.
Mais ça continue d'ailleurs très longtemps. C'est vrai que c'est une activité touristique qui correspondrait tellement aujourd'hui aux besoins environnementaux de redécouverte, pas faire les grandes distances. La France est un pays, comme beaucoup d'autres en Europe, l'Espagne, l'Italie, tu as cité l'Irlande et même en Scandinavie, qui se prête au camping populaire. Voilà. Et on a quand même aujourd'hui des logistiques et des infrastructures qui sont suffisantes pour qu'on passe un bon moment. Mais on a dans ce besoin de consommation un tel besoin de changement Le camping, c'est du nomadisme. On s'installe, on plante sa tente et quelque part, on se marie un petit moment avec le pays, le territoire où on est. Du coup, on le visite. Et voilà. Et les gens reviennent. Pourquoi chaque année? Parce qu'on s'adaptait, on faisait un peu partie du paysage et on était fidèle à un camping. Aujourd'hui, le besoin, la société de consommation, on a des voitures quasiment de luxe. En fait, c'est une chambre d'hôtel roulante et on a besoin de se déplacer pour aller voir du pays. Et c'est de pire en pire. Je vois aujourd'hui dans les Val-de-Loire, autrefois, les gens faisaient deux châteaux le matin, deux châteaux l'après-midi, quand ils faisaient. Là, maintenant, ils veulent faire tout dans la journée, 8, vous voyez. Oui. Et donc là, le mobilhome, je vais aller là, ensuite donc on fait des kilomètres, c'est plus du camping. Oui, ça, c'est une forme de sédentarité, de nomadisme, voilà. Il faut être sédentaire.
Ce matin, pour préparer ce sujet, Perico, je suis allé tout simplement sur Internet, j'ai tapé camping emplacement tente, voilà, ouais. Pour trouver des... Alors, j'ai trouvé encore, et même des campings privés, et par exemple, je tombais sur un camping, je crois que c'était dans le Lot ou quelque chose comme ça, où les prix étaient, c'était 18 euros la nuit, 18 euros la nuit pour une tente, un emplacement, donc vous avez accès à l'électricité, au sanitaire, etc. Mais j'ai regardé où c'était, donc c'est dans l'arrière, en milieu des terres, j'ai regardé, il n'y a rien. C'est-à-dire que dans le camping, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien de prévu. Et je me disais, maintenant, aujourd'hui... Mais c'est ça aussi, les vacances. C'est-à-dire je termine. Oui, vas-y. Il y a rien. Effectivement, il n'y a pas de piscine. Effectivement, il n'y a pas d'activité pétanque. Il n'y a pas de soirée. Tout ça, il n'y a rien dans ce camping. Mais c'est au milieu de la nature. Et ça aussi, on a oublié ces vacances-là. On fait quoi? Rien. Parce qu'il y a.
Mais on a un bouquin.
Vous comprenez ce que je veux dire? C'est l'ennui aussi. C'est juste, on fait quoi? On s'ennuie. Allons faire une balade. Et puis, on se retrouve entre nous. Je parle, par exemple, les parents, les enfants, c'est important ces moments-là. C'est juste se promener, se balader, ne rien faire. Il n'y a rien. Il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but. Mais c'est ça aussi, c'est prendre le temps. Qui nous change tellement de notre quotidien.
Mais le problème qu'on a, si concrètement tu vas dans ce type de camping, tu vas avec des gamins, tu sais très bien que tu risques d'avoir en face une attitude, ils vont faire un peu la gueule, mais qu'est-ce qu'on fait, je m'ennuie, etc. Mais ça, c'est pas. Il ne s'agit pas de tirer à boulet rouge sur la jeunesse d'aujourd'hui. Non. C'est qu'en fait, la jeunesse d'aujourd'hui, elle est aussi comme on l'a élevée. Et comme on l'a fait grandir.
Bien sûr, on a nos responsabilités.
Et donc, comme on a, vis-à-vis d'un certain nombre de sujets, on est parfois, peut-être pas à la hauteur, ce type de vacances qui pourrait être vu.
C'est la sursollicitation.
Oui, voilà.
Non, mais c'est vrai.
Bien sûr.
J'ai des enfants et j'ai ma responsabilité, évidemment. Et je m'en cache pas. Mais aujourd'hui, ils sont tout le temps sollicités. Et c'est vrai que ces vacances-là, c'est dommage. Et le camping, je parle du camping où... avec rien, quoi.
Ah si c'est une zone blanche avec Internet derrière, pour les gamins, c'est un calvaire, les 15 jours au camping.
Yael.
Alors moi, la seule fois où j'ai été sous une tente, c'est quand j'ai été sous la tente de Bédouin dans le désert. Et c'était une expérience qui était absolument extraordinaire.
C'est un camping...
c'est un peu j'adorerais refaire. Sinon, à part ça, tente, camping, tout ça, c'est pas du tout ma cam, mais je peux comprendre aussi que il y ait cet attrait, cette montée en gamme dans le mobilhome. Et puis c'est un côté aussi qui est assez excitant de pouvoir se balader partout en fait les galères qu'on peut avoir dans l'année, je peux comprendre aussi qu'on ait envie, pour ses vacances, d'avoir un peu de confort et de faire, de faire ce qu'on veut, en fait. Laissons les Français faire ce qu'ils veulent, en fait, à un moment donné.
Moins de tentes, voire plus de tentes en certains endroits que des mobilhomes. Et à quel prix le vrai camping est-il mort? Vous nous appelez au 32-16. Frédéric est avec nous. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour Rémi et bonjour à toute l'équipe.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi, Frédéric. On est, on est à Lyon, tout simplement.
À 40 km de Lyon, on est dans le Rhône.
Très bien, vous faites quoi dans la vie, Frédéric?
Alors, je suis éducateur sportif.
Très bien. Est-ce que le vrai camping est mort?
Ah non, non, vive le camping. Et horreur à l'hôtellerie de plein air, ces mobilhomes qui sont attachés les uns sur les autres. C'est pas du camping, ça. Le vrai camping, c'est... Moi, j'ai 58 ans, j'ai pas honte de le dire. Depuis que je suis née, je fais du camping. J'ai embarqué mon mari depuis 35 ans. On s'est même rencontrés dans un camping. Et c'est ça, les vraies vacances. Et comme vous disiez tout à l'heure, c'est ça où nous, on va au camping 6 semaines l'été, sur la Côte d'Azur. On paye 500 euros les 6 semaines. D'accord? C'est même pas le prix d'un mobilhome.
C'est
pour
dingue. Wow. Et vous, alors c'est quoi comme type de logement, d'hébergement? Oui, mais c'est-à-dire, c'est,
vous avez. Vous savez,
oui, mais je sais, on parlait tout à l'heure, Frédéric, mais vous apportez votre tente?
Ah oui, on apporte notre tente, nous on apporte tout.
Vous êtes combien?
On est deux.
Donc c'est.
On est deux au départ. Ouais. Et puis après, moi, on a converti des copains, et notamment une copine, Sandrine, je lui fais un petit coucou, qui n'avait jamais campé de sa vie, qui maintenant est devenue une fan aussi du camping, parce que c'est les vraies vacances, on fait pas...
C'est une tente un peu plus... J'imagine aujourd'hui, elles sont un peu plus confortables quand même, non?
Mais oui, mais on n'est pas accroupis à quatre pattes, c'est des grandes tentes. Là où on va, il y a l'électricité, parce que comme pareil, quand je dis, bah, moi je pars en camping, ah bon, mais tu fais comment pour voir? Bah, t'as l'électricité.
Ah. Avant, on prenait la lampe torche et on avait des piles, hein.
Mais oui, mais on
n'en
est pas mort, hein.
Bah non, c'était un autre monde.
Mais encore une fois, c'était un autre monde. Après, nous, on a emmené nos enfants. Mes fils, ils ont 31 et 29 ans maintenant.
Ah, génial.
Et pour eux, les vacances, c'est le camping.
Vous avez fait des générations de campeurs, Frédéric, c'est magnifique.
Mais oui, et c'est les vraies vacances. Alors nous, on part avec... ça s'appelle le GCU, c'est les groupements des campeurs universitaires.